Radio Barque numéro 28, troisième partie, celle consacrée à notre invité. Alors André Bory, donc, vous êtes président de Rubresus. Bah, dites-nous tout de suite ce qu'est cette association, ce qu'elle fait. Un petit historique rapide.
Oui, ben, Rubresus est une association de protection de l'environnement et du cadre de vie dans les basses plaines de l'Aude, créée en 1998.
Ah, il y a quand même un certain temps.
Voilà, hein, presque une vingtaine d'années. Et à ce titre-là, donc, elle a abordé divers aspects concernant l'environnement, que ce soit les nuisances liées à des traitements de boues d'épuration, des nuisances sonores, des nuisances sur de pollution de l'eau, des nuisances liées à la pollution de l'air comme actuellement. Donc un ensemble de sujets intéressant les basses plaines.
Alors, et alors le cadre géographique, les basses plaines de l'Aude, pourquoi justement ce cadre? Il y a une raison quand même cachée ou que vous allez nous dévoiler.
Non.
Est-ce que c'est les inondations?
À l'origine, ce sont des personnes de Coursan qui ont constitué l'association. Donc, et qui avait donné comme statut ce cadre de protection de l'environnement dans les basses plaines, Coursan étant l'une des communes, bien sûr, importantes des basses plaines d'alors.
Voilà, mais quand on parle des basses plaines de l'Aude, souvent on pense aux inondations.
Voilà, et ça a été un des sujets également importants traités par Rubresus lors des grands événements, et Rubresus d'ailleurs a participé à aux commissions, aux études et aux remarques sur les projets qui ont abouti au plan de prévention, les PAPI.
Hein. Oui, les fameux PAPI.
Rubresus qui n'est pas un oiseau exotique.
Voilà. Et Rubresus avait un peu dénoncé l'aspect statique de toutes les parties prenantes jusqu'au moment des grands événements. L'État, les collectivités.
Qu'est-ce que vous appelez les grands événements, la mer?
Les inondations de 99.
Oui.
Voilà. Et l'État, comme les collectivités ou les associations riveraines, se rejetaient la responsabilité et personne ne faisait rien sur les préventions. La rive gauche était gérée par l'un, la rive droite par l'autre, et rien n'était fait. Et Rubresus était intervenu aussi pour dénoncer ces aspects-là. Donc voilà, c'est pour ça l'origine des basses plaines. Donc on s'intéresse à l'environnement local, et le mot d'ordre Rubresus, c'est les riveraines d'abord. C'est-à-dire, on n'est pas une association écologiste, comme ça peut être dit parfois. On est une association de protection de l'environnement, donc environnementaliste, sans annotation politique ou politicienne à ce niveau-là. Donc,
oui.
Ce qui nous démarque d'autres structures.
Voilà, puis vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, on reviendra sur l'écologie politique, puisque c'est dans l'air du temps également. Et alors, vous avez été sur la sellette très récemment et de manière polémique et très forte, André Bory et Rubresus, à propos du traitement des nitrates de Malvézy. Alors on va vous demander, c'est jamais simple pour l'auditeur moyen et pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, c'est jamais simple, mais on va vous demander d'essayer d'expliquer un peu d'abord le problème et puis les solutions que vous contestez.
Alors la problématique actuelle vient du site Areva Malvézy.
Alors qui existe depuis une cinquantaine d'années.
Voilà, qui a été créé à la fin des années 50, au moment du développement de la filière nucléaire française. Et Malvézy a été le site de purification de l'uranium à partir du minerai en fluorure d'uranium.
Voilà. Rappelons à l'époque que si ça s'est mis à Narbonne, c'est parce qu'il y avait un ministre d'origine narbonnaise qui l'a rapatrié sur son territoire, Monsieur
voilà.
Guy.
Tout à fait. Voilà.
Bon. Et aujourd'hui, on en est là. Donc l'installation existe. Elle produit. Elle est dans la filière d'uranium. Une petite précision, Michel,
oui.
Au passage.
Non, mais c'est un site très important d'un point de vue économique et stratégique.
Hein.
Il n'y a que 4 usines de ce type dans le monde.
Tout à fait. Et pour situer l'ampleur du problème, c'est que le site Malvézy traite 25% de la production d'uranium.
Grosso modo.
Au niveau, donc, pour l'ensemble de l'Europe, une centaine de réacteurs parmi les 400 au monde sont approvisionnés par de l'uranium qui a été prépurifié à Malvézy. Donc c'est un site d'envergure nationale, évidemment, et européenne. C'est le principal site. Et la problématique, c'est que depuis 50 ans, ce site est une décharge de tous les déchets de la production de fluorure d'uranium. Tous les déchets ont été stockés depuis cette date sur le site lui-même, dans d'énormes bassins de plusieurs dizaines d'hectares, que ce soit des bassins de décantation ou des bassins de lagunage et d'évaporation. Mmh. Donc la principale superficie du site est occupée
par du stockage
de déchets. On parle d'entreposage au niveau administratif, puisque l'entreposage est à durée limitée. Là, c'est 60 ans environ de durée, et puis pour encore plusieurs dizaines d'années.
Mmh. Alors, faisons remarquer que c'est du tétrafluorure d'uranium, c'est pas hautement radioactif.
Non, c'est de l'uranium naturel, qui contient une faible partie d'uranium d'un des isotopes, mais c'est l'uranium fluorure qui sera transformé en hexafluorure sur le site de Pierrelatte, et cet hexafluorure d'uranium volatile est ensuite enrichi élaborer l'uranium combustible nucléaire. Voilà. Donc ici, il y a une radioactivité naturelle du minerai concentrée, puisqu'on reçoit Malvesie reçoit du minerai déjà concentré. Mais la problématique, c'est qu'il y a aussi, pendant plusieurs années, voire une vingtaine d'années, il y a eu aussi retraitement sur le site de Malvesie d'uranium provenant de la filière nucléaire pour refabriquer du fluorure d'uranium. D'où la présence de boues radioactives dans des bassins de décantation qui ont dû être classés récemment installations nucléaires de base.
Oui, donc beaucoup plus radioactif que le tétrafluorure de
tout à classique. Fait, c'est sans commune mesure. Là, il y a les produits de fission de l'uranium issus de la filière nucléaire. Donc il y a du plutonium, de l'américium et autres produits, du technétium, qui ont été retrouvés dans les bassins, ce qui n'avait jamais été dit d'ailleurs par Areva. Hein. Il a fallu un accident d'éventration d'un bassin dont les boues se sont répandues dans le site et alentour pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait des boues radioactives dans ce bassin. Rien n'avait jamais été informé auprès du public. Mmh. Et maintenant, on apprend aussi que les bassins d'évaporation sont également contaminés par cette radioactivité. Et c'est l'objet du projet actuel de retraitement des stocks de bassins où plus de 350 000 mètres cubes d'effluents sont stockés depuis plusieurs dizaines d'années. Donc
oui,
c'est un projet de très grande ampleur. Et on est étonné justement que ce projet soit aussi rapidement mené et avec une légèreté administrative aussi importante. Voilà.
Alors encore une fois, c'est toujours compliqué quand on n'est pas scientifique, mais sur le plan purement scientifique ou technologique, vous contestez la méthode proposée par Areva.
Tout à fait.
Pouvez-vous expliquer le plus simplement possible, André
Bory? Lors de l'enquête publique, bien sûr, qui a été réalisée au mois de septembre dernier, sur à peine un mois, avec des dossiers très complexes, on a pu analyser en détail le projet et le procédé proposé. Dans les grandes lignes, le procédé proposé prévoit de détruire les nitrates par un traitement thermique à très haute température.
Alors, ces nitrates, ils sortent d'où ?
Alors, les nitrates viennent de l'acide nitrique qui est utilisé pour solubiliser l'uranium. Mmh. On va schématiser aussi. Hein. Et donc, l'acide nitrique est un réactif très commun, que ce soit à Malvesie ou dans toute l'industrie nucléaire, puisque les sels d'acide nitrique sont généralement solubles, ce qui permet de resolubiliser l'uranium. Et ici, l'acide nitrique est utilisé pour solubiliser l'uranium présent dans le minerai. Mmh. Et cet uranium est transformé en nitrate d'uranyl, puis ultérieurement en fluorure d'uranium. Et donc une partie des eaux de process, de procédé d'élaboration du fluorure d'uranium contiennent des nitrates et les sels minéraux présents initialement dans le minerai.
Donc c'est ça qu'il s'agit maintenant de traiter.
Voilà. Et au fil du temps, ces nitrates se sont concentrés tel un marais salant, hein, puisque certains bassins sont remplis depuis plusieurs dizaines d'années.
Oui, et Michel.
Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que ces bassins en question arrivent aujourd'hui à un niveau de saturation. Ça veut dire que le risque potentiel, quoi, hein, en cas d'événement cévenol de très grande ampleur, c'est qu'une partie de ces effluents liquides, hein, essentiels, mais pas, hein, se retrouve effectivement dans la robine un peu partout.
Oui. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de risque majeur. C'est Areva qui l'annonce pour justifier le projet. S'il y avait un risque majeur, l'ADREAL et les autorités administratives qui surveillent le site, il existe une fiche d'établissement officielle de l'ADREAL sur la sécurité du site, sur l'ensemble des points de sécurité du site. Il est bien dit par l'ADREAL que tous les événements climatologiques, incendies, inondations, ont été pris en compte pour la sécurité du site. On ne peut pas imaginer que les bassins soient maintenant à ras-bord. Il existe dans toute l'industrie des normes de remplissage de bassins qui prévoient les événements climatiques.
Donc vous considérez qu'il n'y a pas de risque et que les bassins,
non,
il faut les garder.
Il n'y a pas plus de risque. Non, il n'y a pas plus de risque aujourd'hui qu'hier. Et ni que demain.
Ah, oui, voilà, dit comme ça.
Je vais vous dire, dans l'industrie, dans toute l'industrie, le moindre stockage de produits dangereux doit faire appel à des procédures permettant la rétention des produits pour éviter les rejets dans l'environnement. On peut imaginer que s'il y avait des risques majeurs, les autorités auraient dû demander à Areva, et si Areva était responsable également, Areva aurait fait un bassin de rétention de secours pour parer un vide, pour parer à tout accident. Là, alors, on nous dit maintenant, les bassins vont être pleins. Ils vont être pleins pourquoi ? Parce qu'Areva va augmenter sa capacité de production. Oui, non, mais... Et sans avoir prévu de traitement. Et c'est ce qui fait... Alors, bien sûr, on veut affoler la population, on veut faire pression sur les autorités en disant si on ne fait pas l'installation, c'est vous qui serez responsable d'un éventuel risque, comme il y a eu quelques années, la digue qui s'est rompue. Et ça, c'est pas un argument ni recevable, ni acceptable.
C'est une balance de risque. Hein. Il y a les risques que vous évoquez, puis les risques qu'ils évoquent aussi. Donc il y a une balance de risque, effectivement, à évoluer. Bon, ça, chacun, effectivement, est à même...
Et alors, ce risque n'est pas avéré. Hein. Bon. C'est simplement un argument, un prétexte, mais en aucun cas un argument sérieux.
Alors ce traitement des nitrates, puisque c'est surtout de ça qu'on a parlé, même c'est devenu un sigle courant, TDN, vous le contestez, vous. Alors pourquoi, André Bourdin ?
Voilà, le principe, donc, c'est de détruire le nitrate. Le nitrate qui est sous forme soluble, c'est un engrais, le nitrate, c'est une base d'engrais. Ce nitrate est très concentré dans le bassin, plusieurs centaines de grammes par litre, jusqu'à 800 grammes dans certains bassins, donc c'est de l'engrais concentré. Et Areva a choisi une méthode de destruction de ce nitrate en le chauffant à 800 degrés. Quand on chauffe du nitrate à 800 degrés, une partie du nitrate se transforme en azote, et une autre partie du nitrate se transforme en oxyde d'azote, qui est un intermédiaire de la réaction. Et cet oxyde d'azote est un agent extrêmement polluant. Dans le procédé Areva, TDN, le chauffage du réacteur, du four, s'effectue avec du charbon pour maintenir une température à 850 degrés à laquelle la réaction de destruction des nitrates va se dérouler.
Et pourquoi du charbon ?
Et ce charbon est nécessaire pour apporter un réactif, l'hydrogène, pour réduire le nitrate. Voilà. C'est une façon de chauffer la réaction, d'obtenir la température et en même temps d'avoir un réactif de réaction du nitrate. Mais cette réaction du nitrate en azote atmosphérique,
donc
permet la destruction des nitrates, se fait avec une production massive d'oxyde d'azote. Et ces oxydes d'azote sont des composés polluants atmosphériques majeurs. Ce sont les mêmes produits qui sont impliqués dans la pollution atmosphérique liée au transport et à l'industrie dans les grandes villes. Chaque épisode dans les grandes villes, et même Paris, bien sûr, et les agglomérations françaises, sont liées notamment aux oxydes d'azote et aux particules fines.
Et c'est ça que vous contestez, donc.
Voilà,
alors, et pourtant, Areva prétend que ce procédé a été testé positivement aux États-Unis.
Ouais. Alors,
votre point de vue,
là-dessus. Et pendant 3 ans chez eux.
Ouais. Non, pas du tout. On a le dossier complet, enfin, fournis par Areva à l'enquête publique et les compléments que le préfet a demandé à Areva, puisque Areva n'avait pas fourni d'explication sur la justification. Donc le procédé n'est pas avéré. Le procédé est expérimental. Il a été testé aux États-Unis sur un pilote de moins de 20 cm de diamètre.
Donc pas à l'échelle industrielle.
Non, en aucun cas. Sur les effluents, il n'a pas été testé. Et il n'a été testé aux États-Unis que sur des solutions synthétiques. C'est-à-dire une solution dans laquelle on met de l'eau, du nitrate, des sels minéraux. Il n'y avait pas d'éléments radioactifs, comme on les a dans les bassins, lors des essais pilotes.
Alors, quand Areva dit ceci, ce sont des raccourcis extrêmement trompeurs.
Évidemment, c'est pour ça que nous, on dit utiliser des résultats d'un pilote qui a fonctionné 183 heures, c'est-à-dire moins de 8 jours d'essais de production continue sur un pilote qui fait quelques centaines de litres, à peine, et que l'installation fera une centaine de mètres cubes, peut-être.
Alors le problème étant maintenant, André Bory, bon, vous contestez cette technique-là, est-ce que vous en proposez une autre qui soit finançable aussi ?
Voilà. Alors,
Rester réaliste.
Pour compléter le panorama de la pollution, il faut préciser que le procédé TDN Areva va rejeter autant de polluants en oxyde d'azote qu'un incinérateur de 200 000 habitants.
Si vous permettez, parce que je ne me fais pas l'avocat du diable, hein, et autant d'oxydes en question que le trafic autoroutier entre Narbonne et Béziers tous les jours.
Oui, mais c'est une surpollution.
C'est un ajout à une pollution. Ouais, quoi.
C'est une surpollution. C'est-à-dire on demande aux automobilistes de réduire la pollution de la circulation, à juste titre. On limite la circulation des véhicules dans les villes pour éviter la pollution atmosphérique. Et là, on crée une pollution atmosphérique. On a évalué, d'après les calculs fournis par l'ADEME, que la pollution atmosphérique liée uniquement aux oxydes d'azote sont l'équivalent de 360 000 km parcourus avec un véhicule diesel tous les jours.
Oui, enfin, avec donc, un véhicule. Alors,
oui, non, mais on peut diviser. C'est un tronçon du périphérique qu'on va mettre aux portes de Narbonne, sur la rocade narbonnaise. C'est l'équivalent. Et si c'était le NOx, mais il y a la combustion du charbon. Areva va brûler 5700 tonnes, pour être précis, de charbon bitumineux par an. La combustion du charbon émet des composés organiques volatiles, comme dans une cheminée. Il y a du benzène, qui est un produit cancérigène, 85 kg par an, du diéthylhexylphtalate.
Oui, enfin, on comprend que c'est également très peu
lourd. Un perturbateur endocrinien, 73 kg par an, produits qui sont actifs à la plus petite dose possible.
Alors, de manière réaliste maintenant, André Bory, qu'est-ce que vous proposez à la place ?
Alors, voilà. Et je voudrais dire, donc pour le procédé, pour faire une synthèse du procédé, Areva, comme les responsables administratifs qui soutiennent ce projet, jouent aux apprentis sorciers, puisque...
Précisons quand même, hein, l'État, en fait, à travers le préfet, le service industriel de l'ADRIR et l'Agence régionale de la santé.
Bon, maintenant, ça ne serait pas la première fois dans l'histoire que l'État joue les apprentis sorciers. Ça ne serait pas la première fois.
Donc, sur la base d'un procédé parfaitement expérimental, dont les Narbonnais seront les premiers cobayes, hein, si ça devait être le cas, d'une part, et puis sur des pollutions atmosphériques majeures, puisqu'on va surajouter une pollution très importante, aussi élevée qu'un incinérateur, aux portes de Narbonne. Tous les responsables refusent l'incinération d'ordures ménagères. Et là, on va en mettre un en catimini.
Oui, on comprend bien, André Bory, mais il faut conclure là-dessus. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez apporter une alternative ?
Déjà, le préfet, à la vue des remarques de Rubrisus notamment, a demandé à Areva de justifier le procédé qui avait été choisi et d'examiner les autres perspectives de traitement. Areva a fourni une note hors enquête publique, donc au mois de décembre, au préfet, une note de 80 pages que le préfet nous a envoyée et qu'on a pu analyser. Donc Rubrisus n'a pas inventé de solution, Rubrisus a étudié les solutions qu'Areva avait expérimentées tout au long de ces 20 dernières années. Parmi les solutions, il en existe une qui paraît la plus intéressante au niveau expérimental, c'est celle d'extraire le nitrate. Au lieu de le détruire, comme par le procédé TDN, en générant une pollution très importante, l'extraction du nitrate va permettre de séparer le nitrate et de récupérer de l'acide nitrique. Et cet acide nitrique étant réutilisable dans la filière de production de l'uranium.
Donc ça serait pour vous la chose la plus raisonnable.
C'est une évidence environnementale.
Et est-ce que financièrement, ça tombe dans les cordes ?
Oui. Alors, c'est une évidence technique également, puisque Areva utilise cette technique déjà dans la production du fluorure d'uranium. J'ai dit en introduction qu'il y avait, dans la production du fluorure d'uranium, solubilisation de l'uranium par l'acide nitrique, en nitrate d'uranyl. Tous les jours, Areva extrait le nitrate d'uranyl par un solvant, le tributyl phosphate.
Oui, pas trop de termes techniques, monsieur André Bory, parce qu'on va
montrer que
Areva
a les outils sur place pour extraire le nitrate. Donc, Areva a étudié dans ses propres expérimentations pilotes l'extraction du nitrate à partir des effluents. Donc c'est un procédé qui est maîtrisé déjà par Areva et qui a déjà été étudié sur effluents.
Parce qu'on aurait pu effectivement faire valoir l'argumentation d'Areva, je ne dis pas pas, ouais. Mais qui effectivement considère qu'après avoir étudié ça, ça produisait la même quantité de rejets. En fait,
C'est le principal intérêt, c'est que on objecte dans la filière de traitement la difficulté de stockage ultérieur des déchets. Alors, avec le procédé TDN, Areva se targue de dire les déchets seront envoyés dans un centre spécialisé de stockage en France de déchets faiblement radioactifs, puisqu'il y a la radioactivité. Avec le procédé d'extraction du nitrate, on arrive au même résultat, puisqu'on extrait les nitrates, donc les déchets sont parfaitement stabilisés, et on réduit la quantité de déchets, puisque le nitrate est le principal constituant des déchets. Si on l'extrait, on réduit obligatoirement la quantité de déchets.
Voilà, mais c'est là-dessus qu'on va conclure. On s'aperçoit à quel point les choses sont difficiles, surtout quand on n'est pas du métier, mais même lorsqu'on est scientifique, les choses sont contestées, polémiques. En tout cas, merci André Bory d'être venu nous expliquer ceci et d'informer nos auditeurs d'un site qui est dans la Narbonnaise, donc forcément qui les concerne. Le prochain invité sera Marie Batte, maire de Bages et à la fois vice-présidente chargée de la culture au Grand Narbonne. Elle nous parlera notamment du salon Livres et Jeunesse. Merci et à la semaine prochaine.